elle est là, Marceline?
Oui.
Il y a longtemps que tu es là, ma chérie?
Non, ça...
Est-ce que tu veux boire?
Et quoi?
Est-ce que tu es maquillée?
Oh, maquillée, non. Je suis comme toujours. Toi, t'es super, vraiment maquillée.
On s'est rencontrés dans le bloc numéro 9 de la Guerra, à l'appel.
Oui, ou ouais. Avant, peut-être avant, même quand avant, quand on en
passait au sauna. Oui.
Ouais, je sais pas.
Mais toi, t'étais J et moi, j'étais R, alors j'étais ouais. Plus loin quand même.
J'étais plus loin, mais enfin. Mais les jeunes, elles ont tout de même eu tendance à se faire connaissance entre elles.
Oui,
c'est ça tout marche. Même parmi les plus jeunes qui soient.
Oui, c'est pour ça qu'on était coquines.
C'est bien qu'il y avait tout de suite 25 ans.
Mais elles
ans.
Pleuraient, elles étaient chiantes.
Ouais, elles étaient très agressives vis-à-vis de
nous. Oui, parce qu'on portait les pierres en chantant, on rigolait, on essayait de tenir, quoi, autrement.
Et... Elles nous faisaient la morale.
Ouais. Elles se taisaient dès qu'on arrivait parce qu'elles devaient se raconter des saloperies. Non ? Toi, avec ta mère et ta sœur. C'était extraordinaire de vous voir toutes les trois. Je t'en viens pas, hein.
D'être avec maman et...
Ouais. Ouais, c'était... J'étais libre, moi. Je me sentais vachement libre, moi. J'avais plus personne, c'était pas mal. Puis si j'étais venue avec mon petit frère et ma petite soeur, je serais passée direct à la chambre à gaz, alors. Il valait mieux être seule. Mais toi, je te disais, toutes les trois, vous étiez, pour nous toutes, hein, pas que pour moi, hein, pour beaucoup d'autres filles, hein, symbolisiez une dignité qui restait toujours. Je l'ai encore dans les yeux, ta mère, j'ai jamais oublié. En même temps, ça m'effrayait, je me disais, qu'est-ce que ça doit être chiant d'être ici avec sa mère. Elle doit te dire en plus ce qu'il faut pas faire, non. C'est le comble.
Non,
c'était pas ça.
Non, au contraire. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que elle ne faisait jamais de morale. Jamais. Mais qu'elle était... C'est ça que j'ai d'ailleurs toujours du mal à comprendre, même maintenant. C'est comment elle gardait tellement de...
Dignité.
De dignité, mais d'optimisme même.
Et puis, ce reste... Cette présence quand même... d'une éducation qui, pour moi, peut-être me faisait bien me conduire.
À mon une contrainte, ça t'obligeait
mais à me tenir bien.
Quand
quoi.
Elle était là.
Quand ta mère était là, je me tenais bien.
Est-ce qu'on s'est croisé à Bergen-Belsen?
Ah, ben oui, je suis venue te voir, je t'ai cherché partout.
On s'est vu, ben, puis tu es partie très vite.
Et puis ta mère était en train de mourir.
Très mal. Ouais. Quand on est rentré, j'avais repris du poids, j'étais pas mal. J'avais eu le typhus, mais pas très grave.
Eu le typhus.
On a toutes les trois maman est morte du typhus. Milou l'a eu, mais très gravement. Elle est rentrée très très mal.
Ah oui.
Alors au fond, mes oncles et tantes se sont surtout occupés d'elle. Enfin, ils ont hésité à l'hospitaliser. Enfin, elle était très mal.
Il y a des affaires qui reprennent. Ça fait
un problème. Oui, embrasse Marceline.
Embrasse-le pour moi.
Et Marceline qui t'embrasse.
Oh. Les fils, ils vont appeler encore aussi.
Qui est Simone Veil pour vous, David Teboul?
Pour moi, Simone Veil, c'est à la fois... la survivante des camps et aussi une femme que j'ai rencontrée. La grande admiration que je porte pour la survivante, pour le témoignage et le travail que Simone Veil a accompli en tant que témoin des camps. Et puis évidemment, ça a été pour moi un véritable modèle à la fois dans ma vie, dans mes engagements. C'était la première fois où, très jeune, je me suis intéressé à la vie politique grâce à Simone Veil. C'est-à-dire, j'ai découvert Simone Veil sur un écran de télévision. C'était à la fin des années 70, les dossiers d'écran consacrés à la déportation, avec un film qui avait suscité énormément d'émotions à l'époque, une série américaine, Holocauste. Et Simone Veil m'a permis de faire de faire tous ces liens, c'est-à-dire à la fois la femme politique, la survivante et le combat pour l'Union européenne et particulièrement la réconciliation franco-allemande. J'ai failli faire des études d'allemand aussi au début, mon intérêt par... Après, ça s'est porté évidemment sur la littérature et sur le théâtre. Mais cette idée qu'il fallait se réconcilier et construire cette réconciliation. Et étrangement, pour moi, le combat européen a toujours été dans cette chose qui est souvent aujourd'hui malmenée, maltraitée, mal compris, le couple franco-allemand. Et ça, c'est Simone Veil.
Pourquoi avez-vous décidé de vous approcher d'elle? Pourquoi avez-vous réussi à vous approcher d'elle? Et comment avez-vous capté cette image d'elle qu'on ne connaissait pas?
D'abord parce que je pense que j'étais très jeune à ce moment-là. Et la jeunesse vous donne la possibilité de grandes maladresses qui malheureusement se poursuivent plus tard. Une sorte d'inconscience sociale. Et comme Simone Veil était une femme très atypique, sous des aspects conventionnels, c'était une femme qui, évidemment, avait des ouvertures comme ça, des sortes d'intelligibilité. Simone Veil ne voulait pas faire de film, ne voulait pas que je la rencontre, parce qu'au fond, finalement, j'avais fait un ou deux films, j'insistais, je voulais vraiment faire rencontrer Simone Veil, et je voulais vraiment faire un film, au fond... à partir de ce souvenir d'enfant. Alors, c'est étrange, j'avais 25 ans. J'étais plus ce petit garçon, devant son poste de télévision. Mais c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est à cet endroit-là que je l'ai rencontré. Alors, c'est pas conscient. Évidemment, quand je l'ai rencontré, je l'ai rencontré pour faire un film très sérieux sur la déportation. D'ailleurs, à l'époque, il fallait faire passer l'Europe et d'autres sujets, les femmes, pour pouvoir faire passer ce film, on me disait, fais pas un film sur la déportation, ça a déjà été fait. C'est ce qu'on me disait. C'est drôle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision sont moins réservées sur... Mais voilà, je l'ai rencontré comme ça. Elle ne voulait pas faire ce film. Elle ne me répondait pas. On me disait toujours, Simone Veil est une femme dure, une femme brutale, cassante. Ce qui va, c'est une femme dure, cassante, je ne sais pas. Et donc j'insiste, et puis j'écris une lettre, deux lettres, un troisième courrier, j'appelle avec insistance, trois fois, ça ne se fait pas, son assistante. Et Simone Veil était dans les parages la troisième fois, elle me prend en ligne de façon très brutale en me disant, écoutez, vous voulez me rencontrer, vous allez me rencontrer de demain matin, mais ce sera très court. Et ce sera, je vais vous dire non. Je ne sais pas pourquoi, la soirée fut agréable pour moi, parce que j'étais presque convaincu qu'elle allait me dire oui. Pourtant, je vous assure que le ton était assez brutal.
Et elle vous a dit oui, pourquoi? Et elle vous a laissé rentrer dans son intimité familiale, corporelle, psychique?
Parce que parfois, je pense que les jeunes hommes qui ont parfois un reste d'adolescence peuvent produire des choses incroyables sur des personnalités. Et donc, je rencontre Simone Veil, et elle arrive très en retard à ce rendez-vous, elle me donne un rendez-vous très tôt, j'attends quand même pendant une heure un quart. Et évidemment, ce retard m'a mis dans une position très confortable. Puis, il y a quelque chose qui se produit autour des cheveux, d'ailleurs. Elle s'excuse dans une délicatesse, une très grande délicatesse, avec un... ce charme, on parle des embouteillages à Paris, enfin des sujets comme ça, qui sont d'ailleurs, c'était il y a presque 20 ans. Et à ce moment-là, elle me demande pourquoi je veux absolument faire un film sur elle et de quoi je filme. Je lui dis, écoutez, je voudrais que vous racontiez dans ce film ce qui se cache derrière votre chignon qui semble d'une telle rigueur. Puis elle se met à sourire, elle dit, écoutez, mon chignon, mais... Et puis on bascule évidemment sur ce fameux convoi 71 très vite, où, chose étrange et chose toujours pas expliquée, une partie des hommes et des femmes de ce convoi n'avait pas été rasée ou partiellement rasée. Cette conversation qui devait durer peu de temps a duré plus de 3 heures. Nous étions un mardi matin. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur cette histoire de ces femmes qui n'avaient pas été rasées. C'est ce chemin que j'ai pris pendant tout l'entretien, c'est-à-dire un chemin intime, un chemin à la périphérie pour aborder l'histoire plus centrale qui est évidemment la Shoah.
Les auditeurs ont pu entendre un extrait de votre magnifique film, David Teboul, au cours duquel, je ne sais pas si c'est vous qui avez eu l'idée ou si c'est très naturellement que Simone Veil a invité sur son lit Marceline Loridan et tout d'un coup, un dialogue s'instaure. Que s'est-il passé? Est-ce voulu de votre part ou quelque chose de si naturel vous a été offert et vous étiez là pour filmer?
Moi, je ne crois pas au naturel. J'aime bien le mettre en scène, mise en scène. Je savais le lien qui existait entre Marceline et Simone Veil. Je ne connaissais pas Marceline. J'avais envie de... Ça me semblait important pour Marceline comme pour Simone Veil, qu'il y ait un échange décousu sur leurs souvenirs d'adolescente. Marceline dit souvent qu'on a l'âge de son trauma. Simone Veil l'avait à sa manière, de façon assez construite très différemment. Les choses se sont construites après la guerre très différemment, les réparations, semblant de réparation. Et donc j'avais eu l'idée, je savais que Simone Veil aimait beaucoup tout ce qui était cette cuisine juive d'Europe de l'Est. Donc j'avais organisé un repas avec un peu de vodka, du hareng, du saumon, des blinis. J'avais fait le sacré course. Et donc on s'est bien amusé avant. Parce que Simone Veil et Marceline avaient toujours quelque chose de... Une sorte de sale gosse comme ça avec Simone Veil. Simone Veil faisait semblant de lui résister, mais tout ça était un jeu de gens qui se connaissaient bien. Et puis on bascule sur le lit, parce que finalement, Simone Veil aime beaucoup être sur son lit. Elle aimait beaucoup être sur son lit, aimait beaucoup écrire sur son lit. Et donc souvent, quand j'allais voir Simone Veil, parfois je la rejoignais. On discutait devant un poste de télévision, et puis beaucoup de livres, tout ça... Et à ce moment-là, voilà, je leur ai dit de dialoguer sur tous ces souvenirs. Et j'ai demandé à Marceline de se substituer à moi. J'ai posé quelques questions et puis à ce moment-là, les choses sont... Ce que je recherchais à ce moment-là, quelque chose qui n'était pas possible. Comment sortir du témoin, de la construction du discours du témoin et comment revenir à des choses... Parce que Simone Veil me racontait parfois quand je la filmais pas et me racontait plus quand je la filmais, quand je lui posais des questions. Parce que quand on fait des phrases, qu'on cherche à construire des choses, on raconte autre chose. Et donc j'avais envie de retrouver, j'avais l'intuition qu'il y avait chez ces deux femmes quelque chose de leur jeunesse. Cette jeunesse, c'était au camp.
Quand Emmanuel Macron vous contacte pour que vous mettiez en place un dispositif pour la panthéonisation de Simone Veil, vous lui dites oui tout de suite. Comment vous viennent toutes les idées qui vont ensuite se concrétiser?
Ça se passe pas complètement comme ça. Emmanuel Macron m'a malheureusement pas téléphoné pour me dire « J'aimerais que vous soyez l'artiste invité au Panthéon. » Mais je deviens l'artiste invité au Panthéon. Avec le soutien de Emmanuel Macron et de Sylvain Faure, qui était le relais d'Emmanuel Macron, du président de la République à ce moment-là, pour l'organisation de l'entrée de Simone Veil au Panthéon. Je dis une chose qui était pour moi très importante. Je dis qu'il y a 3 moments dans l'histoire du Panthéon concernant la Seconde Guerre et l'hommage au... Il y a eu les grandes figures de la résistance qui sont entrées au Panthéon et qui avaient toute leur place au Panthéon. Quand on est déporté, on n'est pas un acte héroïque d'être un déporté. C'est tout le problème d'ailleurs, plus profond, ce qu'on commémore ou pas. Le statut des commémorations et l'évolution du statut des commémorations. Pour moi, Simone Veil, c'était aussi l'entrée de Simone Veil, de la femme, de l'ancien ministre, de la ministre de la Santé, de la femme qui s'est battue pour l'Union européenne. Et il y avait aussi, pour moi, la mémoire du convoi 71. Et c'était une façon importante de faire entrer, de clôturer cette histoire à travers l'entrée de la Shoah au Panthéon, qui n'avait pas lieu d'entrer en tant que telle, mais par la figure d'une survivante comme Simone Veil, qui est un symbole, c'était comme ça que je voyais l'hommage à Simone Veil. Simone Veil disait toujours qu'elle était née deux fois, qu'elle était née, la deuxième fois, c'est au camp. Et je n'ai jamais oublié cette chose-là. Et l'idée, alors, c'était après, évidemment, de rendre hommage à toute la dimension, les dimensions de Simone Veil, à la fois la femme politique, l'ancien ministre, mais l'origine de tous ces combats, particulièrement son combat pour l'Union européenne, est né aussi dans les camps. Alors, évidemment, dans les camps, on ne pensait pas à l'Union européenne, ça n'existait pas. Faisons pas des raccourcis stupides, idiots. Mais il y avait chez Simone Veil, dans son combat pour l'Europe, ce souvenir-là. Alors, on m'a dit oui, mais enfin, il faut faire quelque chose de positif, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Quand les gens ont un peu peur, ils disent toujours. Je pense que justement, ce qui est positif, c'est d'admettre que dans les engagements les plus forts, il y a aussi le souvenir et le trauma de choses, de l'indicible. Et donc, j'ai proposé d'abord qu'il n'y ait pas de photographie à l'intérieur du Panthéon, de survivants, enfin de déportés. Simone Veil était, un jour, m'avait dit qu'au camp, à Birkenau, que les arbres étaient importants pour elle. Que dans cette barbarie, dans l'horreur du camp, parfois, en rentrant, sa baraque, ça on appelait ça des baraques, de voir un arbre, ça lui renvoyait à la beauté. Et donc, il y avait ce souvenir de cette citation que j'avais enregistrée. Et puis, une question que je n'ai pas songé à ce moment-là, puis il était trop tard, et puis on était devenus amis, proches, je ne sais pas, mais amis, et parfois l'amitié, on ne revient pas sur certaines choses. À quoi on pouvait songer le matin à l'aube quand on se réveillait à Birkenau. Ça a été le fil pour moi conducteur de la pièce que j'ai faite pour le Panthéon, l'aube. D'ailleurs, la minute de silence était l'aube à Birkenau, le 17 juin, je crois. J'ai dû enregistrer ça la nuit du 17 juin 2018 à Birkenau. Le son, pour moi, était important, parce qu'au final, on dit toujours qu'on ne représente pas l'indicible. Le son, c'est une façon de dire c'était une façon pour moi de dire les choses sans être figuratif. C'était ça, et le président de la République, et tout particulièrement Sylvain Faure, m'a accompagné dans cette démarche. Voilà.
Simone Veil aujourd'hui.
Pour moi, Simone Veil aujourd'hui, c'est un modèle, c'est un exemple. C'est quelqu'un c'était quelqu'un qui parfois était brutal, mais qui m'a aidé à ne pas renoncer. Avec sa brutalité, son humanité et sa disponibilité, mais de ne pas renoncer aux valeurs et surtout de savoir dire non. Simone Veil est une femme qui savait dire non. Ça, c'est un modèle aussi de savoir dire non.
Ben, merci beaucoup, David. Merci infiniment, David Teboun.